Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jocelyn Morettini. Nous parlons ensemble des impacts de la pandémie sur la santé mentale des gens entre 2019 et 2022. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, la délinquance. En début de deuxième demi, connaît-on vraiment la dysphasie? Notre invitée Geneviève Gauthier nous informe sur le sujet. Bienvenue à Folie douce.
Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous s'étonisez actuellement Folie douce.
J'ai le plaisir d'accueillir notre collaborateur Jocelyn Morettini. Bonjour Jocelyn.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben oui, toujours un plaisir de te recevoir. C'est pas, ça fait longtemps qu'on se parle par des entrevues pour toutes sortes de choses, spécialement ben, sur la santé mentale, bien sûr. Tu es spécialiste d'une certaine façon du domaine, alors tu nous amènes toujours un éclairage intéressant. Cette semaine, tu as donné un webinaire qui faisait un peu le portrait en fait du développement de l'état en santé mentale entre 2019 et 2022, donc finalement avant la pandémie et jusqu'à maintenant. C'est large, mais en même temps, il s'en est passé des choses. Fait que comment tu peux nous présenter ça? Comment tu peux nous mettre la table du sujet?
Déjà, en partant, c'est de voir que il y a énormément d'impact sur la santé mentale des Canadiens, des Québécois, en fait, de toute la planète, et que on est beaucoup dans l'étude de la santé mentale lors de cette pandémie. Chose qui a probablement jamais existé auparavant, c'est qu'on a un énorme groupe à étudier, qui est la planète au complet, parce que tout le monde est soumis à la même condition. Et on s'intéresse maintenant en 2020-2022, à la santé mentale, chose qui n'aurait peut-être pas été aussi vraie en 1980 ou 1900. Et on a donc justement cet avantage, c'est qu'on a beaucoup de données. Évidemment, les données là, que je vais vous présenter aujourd'hui sont un petit peu en décalage, hein, parce que même si on en parle pour 2022, il y a toujours quelques mois de décalage pour obtenir l'information, la digérer, puis la présenter dans des articles scientifiques. Je pense qu'il va falloir aussi attendre plusieurs années, voire décennies, pour avoir une image bien complète de l'impact que ça aurait eu, cette pandémie. Mais il y a eu beaucoup de changements au niveau de la santé mentale entre 2019 et aujourd'hui.
Et on sait, ben les gouvernements se sont souvent fait poser la question, est-ce que au niveau santé mentale, tout ça, mais on a l'impression qu'on n'a pas vraiment pris peut-être la mesure de la gravité jusqu'à un certain point, sans devenir sans avoir peur là, de carrément des conséquences, mais on ne sait pas tout à fait comment ça va se développer. Comme tu dis, ça va prendre des années. Mais d'après toi, est-ce que ça a quand même été dur? Est-ce que c'est quand même négatif comme développement là, de la santé mentale dans ces années-là?
Oui, ça a été négatif. En fait, quand j'ai fait les recherches à ce sujet, j'ai été régulièrement très étonné des chiffres qui apparaissaient à mes yeux. Si on regarde le bien-être déjà en 2019-2020, on voit qu'il y a une grosse diminution de bien-être. Disons de 20% de diminution de bien-être. Et les groupes les plus affectés, c'est généralement les groupes les plus jeunes. Donc, ça, c'était donc pas la question de est-ce que vous avez une problématique de santé mentale, mais juste la notion d'être bien avec soi-même, ça diminue. Et le groupe le plus affecté, c'est les adolescents jeunes adultes de 15 à 24 ans. Mais les résultats sont quasi similaires, au moins jusque dans la quarantaine. Donc, le groupe le plus affecté par la COVID, c'est les plus âgés et en fait, c'est le groupe le plus stable.
Oui.
Ouais.
Effectivement, tout le monde s'inquiétait en disant que les personnes âgées ont tellement écopé, puis c'est vrai, dans toutes les mesures de confinement, tout ça, mais effectivement, comme tu dis, ils ont peut-être été moins touchés que les plus jeunes, apparemment.
Du moins en début de pandémie, puis même un petit peu après le début de la pandémie, mais faut savoir que c'est des moyennes. Donc, peut-être que quelqu'un qui était dans une RPA, une ressource pour personnes âgées, ou dans un CHSLD, avait probablement pas le même état de bien-être mental que quelqu'un qui est en couple dans sa maison. Donc, faut prendre tout ça avec un grain de sel. Mais quand même, on voit que les jeunes qui ont besoin de beaucoup de contacts sociaux, qui ont besoin d'être très actifs, eux ont été fortement affectés par tout ça. Ils ont aussi, de façon générale, les jeunes sont de façon générale moins dans le bien-être que les personnes âgées. Vieillir, c'est comme un bon vin, ça aide à avoir une bonne santé mentale de façon générale.
Et peut-être que les personnes âgées ont peut-être plus aussi de références ou une certaine... ils sont capables de prendre les choses avec un certain recul, peut-être plus. Tu sais, c'est moi qui avance ça, je ne sais pas si c'est le cas.
Ben, en effet, le fait de vieillir fait qu'on a vécu plusieurs événements, plusieurs stresseurs dans notre vie, puis ben, ça nous permet de faire face à ces stresseurs-là plus facilement parce qu'on a de l'expérience. Alors qu'à 15-20 ans, ben, on n'a pas encore cette expérience-là. C'est une nouveauté peut-être dans notre vie. C'est sûr que ça n'a pas les mêmes impacts. Et ici, je donne un petit coup d'œil peut-être à la question justement de l'état dépressif, ce qu'on peut voir, c'est que de toute dépression, là, de façon générale, dans une population sur une année, c'est de 7% d'incidence. Mais là, ce qu'on voyait, c'est que quand ils ont fait passer des questionnaires pour la détresse psychologique, qui est un indicateur d'un potentiel dépressif. Les chiffres sont beaucoup plus grands. Les pourcentages pour les jeunes, c'est dans les 27, 36%, 38%. Ça, c'était jusqu'en 2021, ce qui est quand même des données assez récentes dans le contexte. Et c'est des chiffres qui sont à 30% pour les jeunes. Et si on regarde une personne âgée, c'est à 3%. Les jeunes sont 10 fois plus affectés par des états, des symptômes dépressifs que les personnes âgées. Et c'est vrai quand même aussi pour les personnes d'âge moyen, là, jusqu'à dans la quarantaine. Donc, c'est des chiffres extraordinairement sévères pour moi quand je regarde ça comme psychologue. Il en va de même pour l'anxiété.
Comme tu dis, par contre, peut-être que les gens qui étaient plus jeunes avaient plus l'habitude de socialiser, de sortir, tout ça. Fait qu'ils ont perdu beaucoup plus d'une certaine façon. Fait que c'est peut-être pour ça que ça vient comme le pourcentage est un peu proportionnel à ça.
Ben oui, mais il y a plusieurs autres impacts. C'est vrai que socialiser est important, mais quand on regarde le groupe, par exemple, entre 25 et 50 ans ou 60 ans, c'est un autre groupe. Hein. Donc là, ils ont aussi des problématiques. Par exemple, ils ont des enfants. Ils doivent gérer le fait d'avoir des enfants, ou ils sont au travail, ils ont des inquiétudes. Donc, on peut pas faire des grandes généralités parce que des fois, la problématique provient de choses différentes. Si on regarde justement les données canadiennes, ce qu'on va voir, par exemple, c'est que les familles qui ont des enfants vont développer plus la question de l'anxiété et les familles qui n'ont pas d'enfants, donc les familles, les personnes vivent seules, eux vont plus développer le côté dépressif.
OK.
Et donc, justement, probablement parce que quand on a des enfants, on s'inquiète pour les enfants, on a plus de choses à gérer. Donc, même la manière de développer des symptômes dépressifs et anxieux dépend de l'âge, mais dépend aussi de notre situation.
Est-ce que Jocelyn, quand tu as préparé ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? T'sais, parce que j'imagine que tu t'attendais quand même à avoir des résultats importants parce que, évidemment, on a su comment c'était, là, la COVID, ça a été difficile pour tout le monde, mais est-ce que tu as été surpris à certains moments?
Continuellement. Je ne m'attendais pas à des 10 fois plus, comme l'anxiété généralisée, c'est 10 fois plus que la propension habituelle. Donc ça, pour moi, ça m'a fait tomber des nues. Je ne me serais jamais attendu à ça. Évidemment, il y a des choses qui étaient moins étonnantes, comme la prise de poids, la baisse d'activité physique, mais ça, c'est des facteurs qui vont contribuer à la problématique de santé mentale, parce qu'on a besoin d'un corps en santé pour avoir un esprit en santé. Puis pareil pour les consommations d'alcool et de cannabis, tout a augmenté aussi. Que ce soit une consommation qui est jugée adéquate ou une consommation problématique, tout a monté. Les dynamiques familiales comme les divorces, les ruptures de couple, la violence conjugale, tout semble monter aussi. Ça, c'est des données moins exactes, mais quand même. Et après ça, ce qui est encore plus étonnant, c'est quand on commence à regarder plus en détail la question de l'effet du COVID sur la santé mentale. Donc, il y a l'effet de la pandémie. Donc, de façon générale, on est tous affectés par la pandémie, même si on n'a pas été soumis au virus. Mais il y a le syndrome post-COVID, ce qu'on appelle couramment la COVID longue.
Ouais.
Qui est très significatif. C'est énormément de symptômes physiques et psychiques. Et tout récemment, là, décembre 2021, donc c'est des données quand même très récentes, ils expliquaient que c'est 2% de la population d'Angleterre, c'est les seuls chiffres que j'ai pu obtenir, mais quand même, quand on prend le temps d'y penser, 2% de la population qui avait le COVID long en même temps. C'est énorme, là. C'est 1,3 million de personnes qui vivent avec la COVID longue en même temps.
Et c'est ce qu'on a peur aussi. On se disait toujours pendant surtout les premiers mois, on se disait est-ce que le pire est à venir en santé mentale à cause de la COVID, puis à cause de tout ce qui peut s'en suivre. Là, je disais la COVID longue, on pense que c'est peut-être un peu plus une maladie physique. Est-ce que c'est juste physique ou il y a aussi...
Non, pas du tout. C'est même très important au niveau de la santé mentale. Donc, les gens qui ont la COVID longue, c'est 25% d'entre eux qui vont avoir des troubles de concentration. 27% qui vont avoir des troubles de sommeil. Donc, on est quand même une personne sur quatre. Troubles de mémoire, c'est une personne sur cinq. On est à 19%. Des déficits cognitifs généraux, là, comme les fonctions exécutives, la capacité à réfléchir, 17%. C'est des chiffres très, très, très importants. Et si on regarde plus au niveau de la santé mentale, la dépression, on parle de 20%. Les chiffres québécois semblent plutôt pointer vers le 38% des gens qui ont eu la COVID auraient une dépression. C'est gigantesque.
C'est énorme.
C'est énorme. On est plus qu'une personne sur trois qui vont avoir une dépression suite à avoir eu la COVID. Pareil pour l'anxiété généralisée. Donc ça, c'est un trouble diagnostiqué, c'est 30%. C'est supposé être 3%. On est à 30%. C'est sûr que c'est un sous-groupe là, mais quand même. Pareil pour la dépression, on est à 40, presque 40%, alors qu'on devrait être à 7%. Et puis, il y en a un autre aussi qui est très impressionnant, c'est le trouble de stress post-traumatique. Donc, des gens qui ont eu, par exemple, des accidents de voiture, des agressions, des choses très sévères qui vont développer ce trouble-là. C'est ce qu'on appelle des gens qui ont des reviviscences, là, des flashbacks et des peurs importantes. Ben, 13% des gens qui ont eu la COVID-19 vont avoir un trouble de stress post-traumatique. Ce chiffre-là, en temps normal, c'est 1%.
Énorme,
c'est 13 fois plus. C'est énorme.
Énorme.
J'étais assis quand j'ai lu ces choses-là et heureusement.
Une chance, c'est ça. Et Jocelyn, il reste un petit peu plus qu'une minute, mais est-ce que comment on doit voir la suite? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que là, ce que tu nous rapportes, est-ce que toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu es quand même t'as de l'espoir sur la suite? Ou
Moi, j'ai de l'espoir parce que les gouvernements en parlent, investissent dans ça. Puis, on sait qu'avec les pandémies, les sociétés changent leur comportement. Et avec ça, on va pouvoir espérer que justement des comportements de protection puis les comportements en lien avec le bien-être de la santé mentale augmentent. Ce qu'on peut voir, entre autres, dans des applications de rencontres sur Internet, ils disaient que justement, c'est comme presque 95% des jeunes là, qui voulaient plus rencontrer une personne qui allait en thérapie plutôt qu'une personne qui n'allait pas en thérapie. C'était un avantage parce qu'on se disait c'est quelqu'un qui va prendre soin de sa santé. Donc, on va voir une courbe où, même si on a plus de gens qui ont des atteintes physiques et mentales, ces gens-là vont prendre plus de temps à prendre soin d'eux. Par contre, je pense que ça va être plusieurs années à essayer de traiter tous ces gens-là parce que notre système est débordé et qu'on n'arrive pas à répondre à tous les besoins physiques et psychologiques. Et puis, par le fait de ne pas répondre aux besoins, parce qu'on est sur une liste d'attente, ben ça augmente des problématiques de santé mentale, juste le fait d'être sur une liste d'attente, qu'elle soit pour une maladie mentale ou physique.
D'accord. En terminant, est-ce que tu peux donner une référence rapidement pour les gens qui veulent en savoir plus un peu sur toutes ces questions-là?
Souvent, l'INSPQ est un bon site. Vous pouvez aussi aller sur Statistique Canada. Ils ont des très, très bons résumés qui peuvent être très intéressants.
C'est certain qu'on va y donner suite. Écoute, on a de la matière, là. C'est énorme. Alors, merci beaucoup, Jocelyn Moretini, neuropsychologue, d'avoir été des nôtres et au plaisir de se reparler là-dessus. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup dans les mois et les années à venir, ça, c'est sûr.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Merci, Jocelyn. À bientôt.
Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, la délinquance.
Oui, la délinquance, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle « Les ados délinquants ». C'est un problème dont je n'ai jamais parlé, en tout cas, mais j'aurais... C'est tellement...
Et pourtant, c'est un problème qui est très répandu.
Très répandu, oui. Alors, j'ai pris ça, c'est sur le site Nouveau Moi. .ca. Et l'article est crédité à l'équipe, si tu veux.
Oui.
Alors, on nous dit « Des parents s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne reconnaissent plus leur enfant devenu adolescent. Des jeunes, issus pourtant de bonnes familles, commettent des méfaits. Leur attitude devient carrément insolente. Ils défient les règles tant à la maison qu'à l'école où leurs résultats scolaires dégringolent. Lorsque la situation dégénère, il y a lieu de s'interroger sur les motivations qui ont mené à de tels changements. » Un jeune qui adopte un comportement délinquant le fait pour répondre à un besoin, on nous dit. Agir ainsi lui apporte peut-être un certain prestige auprès des autres de son âge. Ou encore, cela lui accorde un pouvoir qu'il n'avait pas. Ça peut aussi lui permettre de s'approprier des objets qu'il ne pourrait se procurer. Mais tu vois, moi, j'étais adolescent, puis je... Il me semble que j'étais pas délinquant, mais ça, tu sais, je pense que j'avais trop peur de me faire prendre. Mais j'ai quand même fait mon lot de
mauvais coups. Comme ils disent, peut-être qu'il y en a qui veulent, tu sais, ils viennent de même si bon, ils viennent de bonnes familles, mais je sais pas, il y a quand même un désir de, de challenger quoi, l'autorité, je sais pas. Là.
Ouais. Alors, on nous dit, un jeune qui manque de confiance en lui et qui a un faible réseau social est plus à risque de développer de tels comportements. Parfois, s'ajoute un changement d'environnement comme l'entrée au secondaire, une nouvelle école ou un nouveau groupe d'amis. Comme parents, l'éducation que vous donnez à vos enfants est grandement influencée par vos valeurs et l'éducation que vous avez reçue. Vous aurez ainsi tendance à être plus ou moins sévère. Les spécialistes s'entendent pour dire qu'une éducation trop permissive, comme une éducation trop stricte, peuvent mener à des comportements délinquants. Une trop grande permissivité ou un manque d'encadrement nuit à l'apprentissage du respect des règles et empêche d'apprendre à gérer les frustrations. Offrir beaucoup de latitude dans le but de développer l'autonomie peut être perçu comme une forme d'abandon et de désintérêt pour un adolescent. De même, une éducation trop stricte ou trop protectrice brime l'affirmation de soi et peut mener un jeune à la révolte. Parfois, inconsciemment, un parent transpose ses rêves, ses ambitions sur son enfant qui se retrouve avec un lourd fardeau sur les épaules. Il arrive aussi que les parents deviennent un modèle de réussite inatteignable pour un jeune ayant une piètre opinion de soi. Ce qu'un ado désire n'est pas nécessairement ce dont il a besoin. Certes, il a soif de liberté, mais il a besoin de repères. Car les limites, c'est rassurant, ça permet de s'épanouir et d'avoir une vie équilibrée. Malgré ces messages contradictoires, il a encore besoin d'un adulte solide qui va le guider tout en le respectant, d'une personne signifiante qui s'intéresse à lui, qui est présente dans sa vie sans lui donner l'impression de le surveiller. Ou d'un parent qui le soutient dans ses rêves et qui l'encourage à se dépasser.
Ce que je trouve dommage, des fois, c'est que la délinquance va très mal faire partir quelqu'un dans la vie. T'sais, c'est ça qui est dommage, parce que si ça se peut que ça tourne mal pour le jeune délinquant. Puis il y en a qui vont s'en tirer, puis ça comme ils vont passer à autre chose éventuellement, mais il y en a d'autres, peut-être ça va même hypothéquer leur vie.
Là. Des fois, quand on regarde l'actualité, on voit des jeunes comme ça qui se font arrêter, qui commettent des crimes, mais ils se tiennent avec le mauvais groupe d'amis, je pense.
C'est ça.
J'ai l'impression,
en tout cas. C'est ça, puis des fois, c'est ils vont faire un geste, puis là, ça va comme mal tourner, puis ça va être plus grave que qu'est-ce que ça aurait pu être, puis c'est quand même dur pour le jeune. Là.
Ouais. Alors, on nous dit, il faut garder espoir et ne pas baisser les bras. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Il faut d'abord comprendre ce qui pousse votre adolescent à agir ainsi pour mieux cibler vos interventions. Par la suite, une mise au point s'impose pour revoir les règles de vie avec votre jeune. Si la communication est au point mort, vous pourriez envisager de faire appel à un médiateur ou à une personne neutre sur le plan émotif, un oncle ou un ami de la famille. Pour implanter efficacement des règles disciplinaires, il faut d'abord qu'elles aient du sens pour vous. Prenez un peu de temps pour réfléchir à vos valeurs familiales. L'idée derrière cette réflexion est de vous permettre de prioriser les règles que vous voulez mettre en place. Par exemple, qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont les sujets pour lesquels vous êtes prêt à négocier et ceux qui ne sont pas négociables pour vous? La tenue vestimentaire, la santé, l'alimentation, la sécurité, les études, les loisirs, le travail rémunéré. Quelle est votre position? Quelles sont vos attentes par rapport aux heures de sortie, à la répartition des tâches ménagères, aux résultats scolaires? Choisissez le bon moment, un moment où il n'y a pas de tension entre vous pour aborder le sujet. Annoncez qu'il doit y avoir du changement, que ça ne peut pas continuer ainsi, que la situation actuelle vous inquiète et que vous voulez en discuter. Chaque règle doit être précise. Assurez-vous que votre jeune comprend ce qui est attendu de lui, soit quoi et pourquoi. Une règle est claire lorsqu'elle fait le lien avec les valeurs que vous privilégiez. Par exemple, l'heure du coucher sera déterminée en tenant compte des raisons suivantes, soit le nombre d'heures de sommeil qui lui est nécessaire pour être en forme à l'école le lendemain, car pour vous, les études, c'est prioritaire. Une conséquence est efficace lorsqu'elle est adaptée à la situation et qu'elle permettra à votre jeune de faire un apprentissage. La conséquence sur le non-respect d'une règle portant sur l'heure de rentrée devrait être en lien avec celle-ci et d'une durée raisonnable. L'heure de retour pourrait être raccourcie pour les prochaines sorties et rallongée progressivement par la suite. Mais je m'arrête ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard.
Il ne sera pas trop délinquant pendant la pause.
Hein? Je vais essayer.
D'accord, ben on poursuit avec ça plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, connaît-on vraiment la dysphasie? Notre invitée Geneviève Gauthier nous informe sur le sujet. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, la délinquance. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
J'accueille mon invité, Geneviève Gauthier. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission Folie douce.
Merci beaucoup.
On va parler aujourd'hui de dysphasie santé mentale parce que tu es coordonnatrice des services adultes de l'association Dysphasie Plus.
Oui.
La dysphasie, on connaît un peu, mais je pense que tu vas être la bonne personne pour encore mieux nous informer sur ce que c'est, puis qu'il y a aussi un lien, en tout cas, à la santé mentale. Donc, comment on pourrait présenter le tout? D'abord, la dysphasie, qu'est-ce que c'est?
C'est sûr que... Ben en fait, j'aimerais ça commencer avec toi, si tu as envie,
oui.
Avec un petit sondage, quelques petites questions que j'avais faites, que j'ai préparées. Puis ça va permettre aussi même aux auditeurs de pouvoir peut-être voir eux qu'est-ce qu'ils répondraient.
Oui, oui.
Parce que une réalité qu'on a par rapport à la dysphasie, c'est que c'est un trouble qui est très peu connu dans la société en général. Donc, je vais avoir quelques questions. Donc, premièrement, sur une échelle de 1 à 10, selon toi, quelle est ta connaissance de la dysphasie? 1 étant « je connais absolument rien », 10 étant « je connais pas mal ça ».
2 ou 3.
2 ou 3, ok, parfait.
Ben, de ce que je pense.
Oui,
c'est ça. Il faudra voir si je suis dans le champ ou pas.
Est-ce que tu sens que tu seras en mesure d'expliquer ce que c'est ou pas du tout?
Pas vraiment, non.
Pas du tout?
Ben, pas vraiment, dans le sens que probablement je réussirais à l'expliquer, mais il faudrait que je pense un petit peu, ça ne viendrait pas automatiquement. Là.
Ok. Puis, c'est quoi le pourcentage dans la population que tu crois qui a une dysphasie?
Ça, c'est difficile à dire. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'on pense. Parce que j'ai l'impression qu'on... Moi, j'ai entendu souvent des collègues ou des gens qui m'en ont parlé. Fait que j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'on pense, mais je pourrais pas dire le pourcentage. Mais
mettons que tu estimes, là, juste pour le plaisir.
Peut-être 5 à 10 %.
OK. C'est rare. Habituellement, les gens vont plus avoir tendance à dire 1 à 2 %.
Oui.
Donc, puis en fait, pour...
Tu vas nous dire les bonnes réponses après.
Oui, c'est ça. Je vais les dire après. C'est ça. Et dans le fond aussi, je vais te dire des affirmations, puis je veux que tu me dises laquelle, selon toi, est vraie.
OK.
La dysphasie, ça l'affecte seulement le langage. La dysphasie, ça disparaît avec l'âge. La dysphasie peut s'améliorer avec le temps. La dysphasie et le trouble du spectre de l'autisme, ce sont le même diagnostic. Et le trouble développemental du langage et le trouble du langage, c'est la même chose.
Là, il y en a une seule qui est
vraie? Il y en a une seule qui est vraie. Là, puis je t'en ai mis beaucoup.
La troisième?
La troisième qui était que ça peut s'améliorer avec le temps.
Ouais.
Bonne réponse.
OK, merci. Ding, ding. T'as pas mis ta cloche, Pierre.
Oui. Donc, en fait, c'est ça. Juste aussi, parce que là, on a resté avec le terme dysphasie dans les premières minutes et tout, mais ce que je veux, avant de commencer, dans le fond, c'est vraiment d'expliquer que la dysphasie, le trouble primaire du langage, le trouble développemental du langage, ce sont tous la même chose.
OK.
Ça vient créer un enjeu pour faire connaître ce diagnostic-là, parce que dans le fond, avec les années, ça a toujours changé, les appellations ont changé. Donc, selon le moment où on a eu un diagnostic, il y en a qui vont entendre le terme « trouble développemental du langage » puis ils vont dire « j'ai aucune idée de quoi qu'on parle ». J'ai jamais entendu ça de ma vie.
On pense pas que c'est la même chose.
Exact, c'est ça. Donc, on va remarquer que souvent, même juste au niveau de la terminologie du terme, ça vient encore plus créer un enjeu de faire connaître ce que c'est.
Ouais.
Mais aujourd'hui, depuis 2007, on appelle ça le trouble développemental du langage.
Okay.
Mais dans la pratique courante, souvent, on a encore tendance à utiliser le terme dysphasie, même si d'emblée, on serait supposé ne plus vraiment l'utiliser.
Okay.
Habituellement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire le trouble développemental du langage, la dysphasie, pour que les gens, habituellement, ils puissent après ça identifier, OK, on parle de la même chose.
Ils puissent se faire l'idée que dorénavant, on appelle ça comme
exact.
Ça va prendre un bout de temps avant de changer. Mais juste pour le bénéfice des auditeurs et pour mon bénéfice,
oui.
toutes les questions que tu nous as posées, que
oui.
tu m'as posées, j'aimerais savoir les réponses.
Oui, mais je vais
ouais,
répondre
y
justement.
Y
oui, okay, exact. Puis, par rapport justement, quand je posais la question, est-ce que c'était le trouble développemental du langage, est-ce que c'est la même chose que le trouble du spectre de l'autisme?
Ouais.
La raison pourquoi je le pose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont mélanger les deux termes ensemble et qui vont aussi mélanger avec le trouble de langage.
Ouais.
Fait que là, c'est comme beaucoup de choses à retenir, mais en fait, l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme et le trouble développemental du langage, ce sont deux diagnostics complètement différents. Il peut y avoir des manifestations qui se ressemblent, mais c'est vraiment deux choses.
Okay.
Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, dans le trouble de langage, c'est comme la grande famille qui va abriter différents troubles de langage, dont le trouble développemental du langage. Fait que, tu sais, la raison pourquoi aussi je le dis, c'est que souvent, on va arriver, il va y avoir des gens qui vont arriver, ils vont dire « Oh, mon enfant, il y a un trouble du spectre de l'autisme et il y a un trouble de langage aussi, donc c'est la dysphasie. » Puis là, on fait « Non, 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 c'est deux diagnostics complètement différents. »
C'est juste que ça additionne, les deux sont présents, mais c'est pas nécessairement la même chose, c'est ça qu'on
ben,
veut
en
dire,
fait, hein? C'est que c'est complètement deux diagnostics. C'est habituellement, tu peux pas avoir un TSA et un TDL,
okay.
un trouble développemental du
okay,
langage.
D'accord.
C'est vraiment deux choses différentes. C'est juste qu'on a tendance à mélanger à cause de la grande famille des troubles de langage.
Okay.
Puis, par rapport au pourcentage dans la population, il y a 7 %
ah, okay.
des gens qui en ont. Puis, il y a certaines études qui vont jusqu'à 15 % Donc, ça varie selon les places où est-ce qu'il y a eu des évaluations et tout. Là, mais nous, on s'en tient vraiment, il y a 7 % de la population, ce qui est énorme en comparaison avec d'autres troubles qu'on va entendre beaucoup plus parler, mais qui vont avoir 1 à 2 % et tout. Donc, c'est aussi un enjeu qu'on a parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense dans la société, mais les gens ne le voient pas. La raison pourquoi, c'est que le langage, le TDL, excusez, c'est un handicap qui est invisible. C'est beaucoup plus facile de voir, par exemple, une personne en chaise roulante puis de faire « Ah, oh, OK, t'sais, elle, il y a quelque chose, je suis capable de le voir, c'est palpable. » Tandis que le TDL, souvent, les gens, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont s'imaginer, on va dire « OK, trouble de langage, ils vont faire « Bon, ben t'sais, elle a de la misère à parler, à chercher les mots, ben c'est pas si grave. » Mais quand on y pense, on est une société de langage. Tout est langage. Juste en ce moment, notre entrevue, c'est du langage. Il faut aller que je comprenne à quelle heure qu'on se rejoignait, où est-ce que je devais aller, quand que tu m'as donné l'instruction de « je dois te téléphoner ». Donc, c'est toutes des étapes dans la communication qui sont importantes, mais chez une personne qui a un trouble développemental du langage, il va avoir des brisures dans la communication à différents niveaux.
Et le langage, c'est peut-être prioritaire, même sur l'écriture, parce que beaucoup de
oui.
gens savent moins lire. Donc, le langage, tout le monde sait parler, mais c'est ça devient...
C'est ça.
C'est ça qui devient problématique pour les gens qui souffrent de cette problématique.
C'est ça, parce qu'en fait, le trouble développemental du langage, que c'est des difficultés importantes au niveau de l'expression et de la compréhension. L'expression, on peut penser, par exemple, au niveau des sons, des phrases, le vocabulaire, le discours, même avec les mots plus compliqués. La compréhension, on va avoir, par exemple, les consignes, les sous-entendus, les blagues, les notions abstraites, par exemple, les règles sociales, les notions de temps et espace. Donc, tu sais, si on commence à décortiquer nos relations avec les autres, on va se rendre compte que tout est une forme de langage.
C'est sûr.
Donc, puis souvent aussi, une autre difficulté qu'on va remarquer, c'est que les gens vont... Tu sais, mettons, on va voir une personne de 3 ans qui parle pas ou très peu, naturellement parlant, souvent... Nous, on a tendance à vouloir trouver des mécanismes pour pouvoir la faire parler. On va trouver des trucs, des astuces. On va dire, oh mon Dieu, qu'elle n'a pas compris. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de pallier à ça? On va faire des images, on va lui dessiner, on va lui demander qu'elle nous l'écrive, peu importe. Mais à mesure que la personne vieillit, souvent, je dirais vers 7-8 ans, là, souvent, on va se rendre compte que la personne va avoir développé des mécanismes pour pouvoir communiquer. Fait qu'elle va quand même parler. Ben, c'est pas des personnes qui sont non-verbales. Fait qu'elle va quand même parler, elle va être capable de communiquer. Donc, les gens vont avoir tendance à diminuer les impacts réels. Puis on dirait qu'on va juste faire comme « ben, j'ai rien compris », puis on va laisser ça de même. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que plus la personne vieillit, plus elle va vivre des difficultés et moins les services vont suivre. Parce que souvent, c'est ce qui va arriver plus jeune. On va avoir des services en orthophonie où est-ce qu'on va faire de la rééducation et tout. Mais en vieillissant, ce qui va arriver, c'est que la personne a... Elle sera plus prise en charge, puis elle va quand même vivre avec ses difficultés
oui.
Au niveau du langage.
Avant de préciser, Geneviève, que le lien avec la santé mentale, j'aimerais ça quand même que tu me dises, tantôt tu me demandais est-ce que Est-ce que tu pourrais expliquer à quelqu'un ce que c'est? Ben, comment tu pourrais l'expliquer à ta façon? Comment tu pourrais nous dire comment on pourrait l'expliquer en fait ce que c'est la dysphasie qu'on connaît, mais sinon...
Oui, c'est tellement difficile à expliquer au sens où, parce que il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais souvent, nous, quand on va faire une comparaison pour qu'une personne puisse un peu se l'imaginer, c'est qu'on va dire, c'est un peu comme, dans le fond, est-ce que toi, tu parles bien en espagnol?
Non.
Non, est-ce qu'il y a quelques termes que tu connais en espagnol?
Un peu.
Lesquels, par exemple?
Gracias.
Gracias, pardon, hola, bon, pof. Bon, mais c'est comme si je disais, OK, ben à partir de maintenant, on va faire l'entrevue en espagnol avec les connaissances et les mots que tu as.
Ouais.
Ça se peut, tu sais, comment tu vas sentir à ce moment-là?
Ça va être bizarre comme entrevue.
Ben, ça va être bizarre. Ça se peut que tu vas avoir de la misère à compléter l'entrevue. Ça se peut que tu deviennes nerveux. Ça se peut que tu aies l'impression d'être en situation d'échec. Ça se peut que tu ne sois pas capable de la faire.
C'est pas que les gens ne connaissent pas le mot. C'est parce qu'ils ont une difficulté de langage. C'est parce qu'ils mélangent les choses. Ou comment on pourrait l'expliquer? Est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas les mots?
Ça dépend, dans le fond. C'est ça. Il y en a pour qui que. Ça va être au niveau de la connaissance des mots. Donc, il y en a, par exemple, tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on va dire, c'est d'utiliser des mots qui sont plus simples. Donc, si on commence à sortir des notions, tu sais, trop complexes, tout, ça se peut qu'ils ne l'aillent pas. Souvent, pour donner une idée, là, c'est, tu sais, ils ont une intelligence comme nous, ils ont une intelligence normale et tout, tu sais, c'est pas ça qui est affecté. Mais c'est comme si je te disais, tu as 30 ans, mais tu as le langage d'une personne de 14 ans. Mm-hmm. Une personne de 14 ans est capable de parler, est capable de... Mais tous les concepts qu'on va apprendre entre 14 et 30 ans, que ce soit au niveau de notre maturité, de notre jugement, que ce soit au niveau même des nouveaux concepts que... Tu sais, des fois, mettons, plus jeune, on est comme, oh, je comprends rien par rapport aux fractions. On vieillit, puis là, on développe des notions de raisonnement, de déduction et tout, que là, on fait, oh, maintenant, je comprends c'est quoi une fraction.
Ouais.
Mais ça se développe à mesure que notre cerveau se développe, mais à mesure aussi qu'on a accès à du langage et tout. Donc, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que si je demande à une personne de 30 ans, tu sais, dans le fond, la personne va avoir accès à du langage de 14 ans, elle peut s'en sortir, elle est capable de parler avec nous. C'est juste que quand on analyse son discours, on se rend compte qu'elle va peut-être avoir accès plus à des mots généraux.
Mm-hmm.
Tu sais, par exemple, elle va dire « Ah, oh, mes choses là-bas », au lieu de dire « mes articles scolaires ». Tu sais, elle n'aura peut-être pas accès à ce mot-là. Mais il y en a d'autres qui vont avoir accès, mais ça va plus être au niveau de la compréhension. Donc, ils vont parler, on s'en rendra pas compte, mais c'est vraiment... Nous, quand on va échanger avec eux, qu'on va se rendre compte que, ah, OK, ils ont pas bien compris la phrase.
C'est un peu ton exemple que tu tenais des langues. On peut connaître un peu une langue, un peu plus, un peu. Dans le fond, c'est un peu ça, c'est les niveaux. Mais j'aimerais qu'on reste quelques minutes seulement, ça va vite. J'aimerais que tu nous parles du lien entre la santé mentale et cette problématique. Parce que, tu sais, quand on s'est parlé au départ pour préparer l'entrevue, c'est ça que tu m'amenais comme information. Là.
Mais en fait, c'est ça. C'est comme c'est un trouble qui n'est pas connu, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de préjugés dans la société. Fait que les gens, souvent, ils vont avoir tendance justement à faire comme bon, l'autre qui comprend jamais rien, puis ça va être très difficile pour eux de se faire des amis, de se trouver même, tu sais, plus tard, de se trouver un emploi, de réussir. Donc, ils vont beaucoup vivre des échecs, de l'isolement, parce que entre me mettre dans une situation où je vais pas comprendre les gens et les gens me comprendront pas, j'aime mieux rester chez moi. Donc, souvent, on va voir de l'isolement, de la dépression, de l'anxiété, anxiété de performance, parce que je le vois que je ne suis pas capable de réussir. Et tu sais, ces personnes-là, là, c'est comme si leur cerveau, dès qu'ils se lèvent, ils pédalent, ils pédalent, ils pédalent, puis ils pédalent jusqu'à la fin de la soirée, sont fatigués.
Ils sont épuisés.
C'est ça. Fait que ça, on va vraiment le marquer. Puis les deux dernières années avec la pandémie, ben ça l'a comme exacerbé parce que là, ils ont été encore plus isolés. Donc, on remarquait justement encore plus d'idéations suicidaires, de la dépression, de l'isolement. Puis le fait que ce n'est pas connu puis qu'ils ne sont pas nécessairement bien pris en charge présentement, bien, ça fait en sorte qu'en ce moment, ils perdent beaucoup leur filet de sécurité, leur filet social. Puis on remarque vraiment comme une hausse de toutes les troubles anxieux.
Okay.
Surtout, beaucoup l'anxiété, là, je te dirais, là, c'est ça, idéations suicidaires, c'est des gros...
Gros enjeux.
Oui, c'est ça qu'on traite présentement.
Peut-être que les gens qui sont victimes, qui découvrent qu'ils ont la dysphasie. Moi, je vais appeler la dysphasie parce que les gens connaissent ça comme ça. Mais est-ce que c'est plus en jeune âge, habituellement, qu'ils vont se faire diagnostiquer?
Oui, habituellement, c'est plus autour de 5 ans. Des fois, il y a des signes, dans le fond, précurseurs qu'on peut voir, que des fois, on peut remarquer justement au niveau du langage. Mais il y en a des fois qu'ils ne s'en ont jamais rendu compte, puis c'est à 40 ans ou en ayant un enfant qui font, oh, attends une seconde, je me rends compte que je ressemble à. Tu sais, il y a des choses que j'ai comme mon enfant. ans, parce que dans le temps, ça n'existait pas. C'est un diagnostic qui est quand même jeune. Donc, toutes les personnes de 40 ans et plus souvent n'ont pas été diagnostiquées, sont passées sous le radar.
Okay.
Là, on commence de plus en plus à faire des diagnostics parce qu'on commence à en entendre de plus en plus parler.
On voit l'importance de s'y attarder.
C'est ça. Mais ça reste quand même que vu que ce n'est pas connu, il y en a beaucoup encore qui ont de la... on a encore un très gros problème au niveau des services, la prise en charge, de vraiment faire le diagnostic.
OK. Bien, Geneviève, pour terminer déjà, j'aimerais savoir comment les gens peuvent en savoir plus. Est-ce qu'ils peuvent avoir des informations au niveau de l'association Dysphasie Plus, entre autres, où tu travailles?
Oui. Ils peuvent aller sur notre site web. On a aussi beaucoup de capsules informatives, que ce soit enfance, jeunesse, adulte. Donc, ils peuvent vraiment aller lire ou nous téléphoner directement.
Tu peux donner le site web?
Oui, au www.dysphasieplus.com.
Bien, merci beaucoup, Geneviève Gauthier. Merci. Plaisir et à la prochaine.
Merci.
Au revoir.
Bye-bye.
Vous syntonisez Folie Douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale.
Nous poursuivons avec le sujet que tu as amorcé plus tôt, Pierre, la délinquance. Et ce que je voulais te dire, Pierre, en fait, je précisais un petit peu ce que j'avais dit dans le premier segment. Des fois, les jeunes qui vont faire un acte délinquant vont être chanceux dans leur malchance, dans le sens que souvent, ils vont faire quelque chose, puis là, ils vont comme s'en sortir, puis ils vont réaliser que ça aurait pu être grave ce qu'ils ont fait. Ouais. Puis des fois, c'est l'inverse. T'sais. Quelqu'un va faire un mauvais coup, puis ça va comme hypothéquer sa vie. Fait que c'est toujours un petit peu délicat, puis il faut quand même le prévenir, la délinquance, même si, comme tu l'expliquais, des fois, ça vient pour toutes sortes de raisons. Là, mais effectivement.
Ouais. Alors, c'est ça. Je vais poursuivre ma lecture de cet article que j'ai trouvé sur Internet. Ça s'appelle « Les ados délinquants ». C'est sur le site nouveaumoi.ca. Nouveau, c'est écrit N-O-O-V-O. Nouveau moi. Alors... je disais tantôt qu'il faut choisir un moment pour avoir une rencontre avec le jeune là, qui présente peut-être des problèmes là, de
Et comme tu disais, dans des moments qui n'est pas déjà un moment où tout le monde est énervé, là, parce que c'est pas le bon temps, ça va juste se revoler de partout.
Puis pas pendant le Super Bowl.
Non, c'est ça, exactement. Il faut que ce soit un moment calme et que tu sens qu'il y a une ouverture là, pour la communication.
Alors, on dit, lors de cette fameuse rencontre, ce qu'on conseille, on dit, adoptez une attitude calme et demeurez attentif au choix des mots et au ton de votre voix. Deuxièmement, établissez ensemble seulement 2 à 3 règles selon leur degré de priorité. Troisièmement, la recherche d'une solution commune implique qu'on négocie de bonne foi, qu'on fait preuve d'ouverture et de créativité. L'idéal est d'arriver à un consensus où il n'y a pas de perdant. Et finalement, notez par écrit les règles et les conséquences que vous venez d'élaborer ensemble. Cela devient une sorte de contrat écrit, ce qui rend votre arrangement plus officiel et peut servir d'aide mémoire au besoin. Les attitudes à adopter maintenant lors de ces rencontres. Alors, on dit, ayez des attentes réalistes, soyez patient et persévérant. Ne vous attendez pas à un changement instantané dès une première intervention. Il faudra appliquer plusieurs fois la conséquence pour qu'un jeune modifie un comportement qui est présent depuis un bon moment. N'hésitez pas à valoriser les bons comportements et à lui offrir des messages positifs d'encouragement.
Parce que les jeunes, des fois, ont tendance à se décourager. Ils vont dire, il n'est pas récupérable, effectivement. Mais comme tu dis, il faut juste être patient.
Ça prend du temps, des fois.
Puis réfléchir, trouver peut-être le bon angle. Chaque personne est touchable par quelque chose.
Il ne faut jamais se décourager dans rien.
Non, absolument. Regarde nous autres. On se décourage jamais.
Non. On nous dit, faites la distinction entre votre jeune et son comportement. Tentez de vous rapprocher de votre ado en lui proposant des activités familiales. Offrez-lui d'aller le reconduire pour vous donner l'occasion d'échanger avec lui et de mieux le connaître. Assurez-vous, si besoin, du concours de l'école de votre enfant pour lui venir en aide. La direction peut mettre en place un plan d'intervention personnalisé avec la participation des enseignants, des intervenants ou des parents. Une étroite collaboration permettra d'intervenir ensemble sur les comportements inadéquats qui sont présents à la fois à la maison et à l'école. Votre enfant recevra ainsi le même message et les mêmes valeurs. En plus de vous soutenir, la direction de l'école peut aussi vous diriger vers d'autres ressources communautaires offerte aux parents.
C'est ça, il y a de l'aide des fois qu'on ne peut pas imaginer, mais oui. Peut-être le milieu scolaire en a vu d'autres, là, des actes délinquants. Là.
Sûrement, oui. C'est pas parce que des parents, justement, ont un enfant délinquant qui sont les seuls comme ça dans le quartier.
C'est ça, puis des fois, il y a de l'aide qu'on ignore parce qu'on n'a pas affronté ce problème-là avant.
Exactement. Alors, je répète le nom de l'article, c'est « Les ados délinquants », c'est sur le site nouveaumoi.ca. Et parlant d'aide, il y a des téléphones, des lignes d'aide.
Oui, il y a des services.
Oui, il y a ligne parents Montréal, de numéro de téléphone, c'est dans le 514, c'est le 288-1444. Et il y a aussi éducation coup de fil, un service de consultation professionnelle anonyme d'aide à la famille. C'est dans le 514 au 525-2573 ou encore le 1-866-329-4223.
Oui, parce que c'est ça, il ne faut pas laisser traîner. Je pense que c'est ça qui est peut-être le mot d'ordre là, avec cette chronique-là, dans le fond, de dire ben, prenons-le assez rapidement, parce qu'on ne parle pas non plus dans cet article-là de la gravité, parce qu'il y a différentes gravités. Il y a des grands actes de délinquance, puis des petits méfaits.
J'imagine que les grands actes de délinquance, ben là, ça prend la police.
Oui, c'est ça.
Là, on entre dans un autre registre.
Ça semblait plus, cet article-là, de quelque chose qui est gérable par les parents, par la famille, par les proches, puis par l'école, comme tu disais.
Exactement, oui.
Ben, merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet, la délinquance.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ta mise en onde.
Ben, bienvenue,
mon cher. Comme à chaque semaine.
Mm-hmm.
Je te remercie également pour tes blocs espresso et allongés où ton sujet était la délinquance. Ouais. Alors, on a appris plusieurs choses. Merci. Puis, on a eu des services aussi, des informations pour les services. C'est toujours important. Notre invité et collaborateur en début d'émission, Jocelyn Morettini, a discuté avec nous des impacts de la pandémie sur la santé mentale des gens entre 2019 et 2022. Beaucoup de matière à suivre. On aura éventuellement d'autres entrevues parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à étudier là-dessus. On a eu notre invité en début de deuxième demi, Geneviève Gauthier, qui nous a mieux fait connaître, nous a mieux informé en fait sur le sujet de la dysphasie. C'est donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.